Chapitre 67. Dolman Island, mardi 16 juin 1981. Saul n'avait jamais vu un tel déluge. Lorsqu'il se mit à courir sur la plage, une masse d'eau s'abattit sur lui, menaçant de l'aplatir sur le sable comme un rideau de théâtre tombant sur un acteur resté un instant de trop sur scène. Les faisceaux lumineux des hors-bords et de l'hélicoptère ne faisaient qu'éclairer la trajectoire floue des grosses gouttes argentées qui criblaient le sol comme des missiles. Saul courut, glissant sur un sable qui avait pris la consistance de la boue, étrangement persuadé qu'il ne pourrait jamais se relever s'il venait à tomber. L'averse diminua d'intensité aussi soudainement qu'elle s'était déchaînée. L'eau lui martelait la tête et les épaules. Le grondement du tonnerre et le staccato des gouttes sur le feuillage étouffaient tous les autres bruits. Et voilà qu'en un instant, la pression se relâchait. Il voyait devant lui à plus de 10 mètres de distance, en dépit des volutes de brume. Il entendait les hommes qui se mettaient à crier en l'apercevant. Devant lui jaillirent de petits geysers de sable, et il se demanda l'espace d'une seconde s'il s'agissait de coqs ou de crabes quittant leur abri après la tempête, avant de comprendre qu'on lui tirait dessus. Le bruit du rotor couvrit celui de l'orage, et une forme massive passa en un éclair au-dessus de sa tête. Un faisceau aveuglant fouilla la plage à sa recherche. L'hélicoptère changea brutalement de direction, fendant la brume devant lui, avant de faire demi-tour 6 mètres au-dessus du sable battu par les vagues. Les moteurs des hors-bords gémirent lorsque leurs coques fendirent la ligne blanche des brisants. Saul trébucha, réussit à retrouver l'équilibre, continua de courir. Il ne savait pas où il se trouvait. Il était sûr que la plage de la pointe nord était plus étroite, la lisière de la jungle moins éloignée du rivage. L'espace d'une seconde, alors que l'hélicoptère achevait sa manœuvre et l'éclairait de son projecteur, il fut persuadé que le déluge l'avait empêché de repérer la crique. La nuit, la tempête et la marée avaient altéré le paysage, et il était passé devant son point de repère sans le voir. Il continua sa course, le souffle court, la gorge serrée, la poitrine en feu, entendant des impacts de balles et voyant des geysers de sable jaillir de toutes parts. L'hélicoptère remonta la plage en rugissant, menaçant de le décapiter avec ses patins. Saul se plaqua au sol, et le sable râpeux comme du papier de verre lui lacéra la poitrine, le ventre et les organes génitaux. Il enfouit sa tête dans le sable lorsque l'appareil passa au-dessus de lui dans un vacarme infernal. Peut-être qu'une balle perdue toucha son moteur, peut-être qu'un mécanisme atteignit son point de rupture, Saul n'aurait su le dire, mais il entendit un bruit évoquant celui d'une bétonneuse emplie de boulons. L'hélicoptère tressauta et fit une embardée au moment précis où il survolait son corps gisant dans le sable. 50 mètres plus loin, le pilote essaya de prendre de l'altitude, mais il ne réussit qu'à virer vers le large, puis à obliquer vers la jungle, rotor principal et rotor de queue, cherchant à l'entraîner dans deux directions opposées. L'hélicoptère fonça droit sur les arbres. Il sembla, durant quelques secondes, que le pilote voulait utiliser les pales de son rotor pour se frayer un chemin à travers les frondaisons. Des fragments de feuilles de palmier volaient au-dessus de la cime des arbres, comme des ouvriers s'écartant devant un taco en folie dans un film de Max Sennett. Mais l'hélicoptère apparut bientôt au-dessus de la lisière de la forêt, décrivit un improbable looping, et la lueur de son projecteur braqué vers le ciel se refléta sur le plexiglas de son cockpit luisant de pluie. Saul se plaqua au sol une nouvelle fois, tandis que des fragments de verre et de métal arrosaient la plage sur une largeur de 50 mètres. Le cockpit heurta le sable, rebondit au-dessus des vagues, comme une pierre lancée assez fort pour faire ricochet, puis s'enfonça dans 3 mètres d'eau. Une seconde plus tard, les charges explosives encore à bord sautèrent. La mer se mit à briller comme une flamme dans un globe vert, et un geyser d'écume jaillit sur une hauteur de 12 mètres, avant de retomber vers Saul. Des débris divers criblèrent le sable pendant 30 bonnes secondes. Saul se releva, s'épousta, et contempla la scène d'un air hébété. Il venait de comprendre qu'il se trouvait dans le lit d'un petit ruisseau, parcourant une large dépression creusée dans la plage, lorsque la première balle l'atteignit. Il ressentit une vive douleur à la cuisse gauche et pivota juste à temps pour encaisser, au niveau de l'omoplate droite, une seconde balle qui le projeta dans le courant boueux. Deux hors-bord se préparaient à accoster pendant qu'un troisième restait au large. Saul gémit et roula sur lui-même pour examiner sa cuisse. La balle lui avait labouré la chair en dessous de la hanche. Il tenta de palper son dos de la main gauche, mais son omoplate était engourdie. Sa main était ensanglantée lorsqu'il la retira, mais cela ne lui apprenait pas grand-chose. Il leva le bras droit et agita les doigts. Au moins son bras était-il encore en état de marche. « Au diable !» pensa-t-il en anglais, et il rampa vers la jungle. À 20 mètres de là, la coque du premier hors-bord racla le sable, et 4 hommes en descendirent l'arme au poing. Toujours couché à terre, Saul leva les yeux et vit les nuages s'écarter. Les étoiles refirent leur apparition, tandis que les éclairs illuminaient toujours le monde au nord et à l'ouest. Puis le dernier nuage passa, tel un immense rideau se levant sur le troisième et dernier acte. Tony Harrod s'aperçut qu'il était mort de trouille. Les 5 hommes étaient descendus dans la grande salle, où les gardes du corps de Barent avaient déjà disposé 2 fauteuils face à face de part et d'autre du sol carrelé. Les neutres de Barent montaient la garde à chaque porte et à chaque fenêtre, sentinelles armées des plus incongrues avec leurs blazers et leurs pantalons gris. Un petit groupe d'entre eux entourait Maria Chen, un assistant de Kepler, répondant au nom de Tyler, et Tom Reynolds, l'autre pion de Willy. Derrière la porte-fenêtre, Harrod aperçut l'hélicoptère personnel de Barent posé dans une petite dépression devant les falaises, entouré d'un escadron de neutres qui clignait des yeux sous la lueur des projecteurs. Barent et Willy semblaient les seuls à comprendre ce qui se passait. Kepler continuait de faire les 100 pas et de se tordre les mains comme un condamné à mort, tandis que Jimmy Wayne Sutter restait immobile, le sourire aux lèvres et les yeux vitreux, comme un amateur de peyotl en plein trip.
« Alors, où est votre putain d'échiquier ?» demanda Harrod.
Barent sourit et se dirigea vers une longue table Louis XIV, où se trouvaient disposés un buffet, des verres et des bouteilles. La table voisine était encombrée d'appareils électroniques, et Swanson, l'agent du FBI, s'était posté à côté avec un micro et un écouteur.
« Il n'est pas nécessaire d'avoir un échiquier pour jouer, Tony, » dit Barent. « Ce jeu est avant tout un exercice mental. »«
Et vous dites que ça fait plusieurs mois que vous jouez par correspondance, tous les deux. »
La voix de Joseph Kepler était tendue.
« Depuis décembre dernier, après que nous avons lâché Nina Drayton sur Charleston ?»«
Non. »
Barent fit un signe à un domestique vêtu d'un blazer bleu qui lui servit une coupe de champagne. Il le goûta et eut un hochement de tête approbateur.
« En fait, Mr. Borden m'a contacté pour entamer l'ouverture quelques semaines avant les événements de Charleston. »
Kepler eut un rire sec.
« Et vous m'avez laissé croire que j'étais le seul à pouvoir le contacter, alors que Sutter et vous avez toujours été en liaison avec lui ?»
Barent jeta un regard à Sutter. Celui-ci contemplait le paysage avec des yeux fixes. Le révérend Sutter avait contacté Mr. Borden longtemps auparavant. Kepler se dirigea vers la table et se servit un whisky bien tassé.
« Vous êtes servi de moi, tout comme vous vous êtes servi de Colben et de Trask. »
Il avala son verre cul sec.
« Joseph, » dit Barent d'une voix apaisante, « Charles et Niman étaient au mauvais endroit au mauvais moment. »
Kepler eut un nouveau rire et se resservit un verre.
« Des pièces capturées, évacuées de l'échiquier. »
« Yaaah !»
acquiesça Willy d'une voix joviale.
« Mais j'ai moi aussi perdu quelques pièces. »
Il saupoudra de sel un œuf dur et y mordit à belles dents.
« Herr Barent et moi n'avons guère ménagé nos rênes lors de l'ouverture. »
Harrod s'était approché de Maria Chen. Il lui prit la main. Elle avait les doigts glacés. Les gardes de Barent étaient à plusieurs mètres de distance. Elle se pencha vers Harrod et murmura.
« Ils m'ont fouillé, Tony. Ils savaient que j'avais planqué une arme à bord du bateau.
Il n'y a plus aucun moyen de quitter l'île à présent.
Harold hocha la tête.
« Tony !»
chuchota-t-elle en lui étreignant la main.
« J'ai peur !»
Harold parcourut la vaste pièce du regard. Les hommes de Barent venaient de braquer des projecteurs sur une portion du carrelage noir et blanc. Chaque carreau mesurait environ 1,20 m de côté. Harold compta 8 rangées de carreaux éclairés, chaque rangée comportant 8 carreaux. Il comprit qu'il avait devant lui un gigantesque échiquier.
« Ne t'inquiète pas, »
murmura-t-il.
« Je te tirerai de là, je le jure. »« Je t'aime, Tony, »
chuchota la belle Eurasienne. Harold la regarda pendant une bonne minute, lui étreignit la main, puis retourna près du buffet.
« Ce que je ne comprends pas, Herr Borden, » dit Barent, « c'est comment vous avez empêché Mrs. Fuller de quitter le pays. » Les hommes de Richard Haynes n'ont jamais réussi à savoir ce qui s'est passé à l'aéroport d'Atlanta.
Willy éclata de rire et ôta des fragments de blanc d'œuf de ses lèvres.
« Un coup de téléphone. Un simple coup de téléphone. Il y a quelques années de cela, j'avais pris la précaution d'enregistrer certaines conversations téléphoniques entre Mélanie et ma chère Nina. Il m'a suffi de faire un petit montage sonore. »
Il prit une voix de fausset.
« Mélanie ! Mélanie, ma chérie, ici Nina ! Mélanie ! Ma chérie, ici Nina ! »
Willy se remit à rire et attrapa un autre œuf dur.
« Et vous aviez déjà choisi Philadelphie comme champ de bataille pour le milieu de partie ?»
demanda Barent.
« Nein ! J'étais prêt à jouer là où Mélanie choisirait de se terrer. » Mais Philadelphie était un lieu fort acceptable dans la mesure où il permettait à mon associé, Jensen Luard, de passer inaperçu parmi les autres Noirs.
Barent secoua la tête avec regret.
Ces escarmouches nous ont coûté fort cher. Nous n'avons pas toujours très bien joué, tous les deux.
Nia, j'ai perdu ma reine en échange d'un cavalier et de quelques pions,
dit Willy en plissant le front.
C'était nécessaire si je voulais éviter une conclusion trop rapide et trop ambiguë. Mais je n'ai pas joué à mon meilleur niveau.
Swanson s'approcha de Barent et lui murmura quelques mots à l'oreille.
Veuillez m'excuser quelques instants,
dit le milliardaire, qui se dirigea vers la table où était installé l'équipement radio. Lorsqu'il en revint, il lança un regard noir à Willy.
Qu'est-ce que vous mijotez, Mr. Borden?
Willy se lécha les doigts et ouvrit de grands yeux innocents.
« Qu'y a-t-il ? »
demanda Kepler.
« Que se passe-t-il ? »
« La majorité des prisonniers sont sortis de l'enclos, » dit Barent. « Deux gardes au moins ont péri au nord de la zone de sécurité. Mes hommes viennent de repérer l'associé noir de Mr. Borden accompagné d'une femme, le pion que Mr. Harrod a amené sur l'île, à moins de 400 mètres d'ici, dans Live Oak Lane. »
« Quelles sont vos intentions, monsieur ?»
Willy écarta les bras, les paumes levées vers le ciel.
« Jensen est un associé de longue date que j'estime énormément. Je le faisais venir ici pour qu'il participe à la fin de la partie, Herr Barent. »
« Et la femme ?»«
J'avais également l'intention de l'utiliser, je l'avoue. »
Le vieil homme jeta un regard circulaire sur la grande salle, où se trouvaient 2 douzaines de neutres armés de mitraillettes Uzi et de fusils automatiques. On en apercevait d'autres postés sur les balcons qui dominaient la scène.
« Vous n'allez pas me dire que ces deux pions nus représentent une menace à vos yeux ?»
conclut-il en gloussant. Le révérend Jimmy Wayne Sutter se détourna de la fenêtre.
« Si le Seigneur crée de l'extraordinaire, si la terre, ouvrant sa gueule, les engloutit avec tout ce qui leur appartient, s'ils descendent vivants au séjour de la mort, « vous saurez que ces gens avaient méprisé le Seigneur. »
Il fit de nouveau face à la nuit.
« Nombre, chapitre 16. »« Merci, du fond du cul. On avait bien besoin de ça, »
dit Harold. Il décapsula une bouteille de vodka hors de prix et en but une gorgée à même le goulot.
« Silence, Tony !»
ordonna sèchement Willy.
« Eh bien, Herr Barent !» « Me permettez-vous de faire venir mes pions ici pour que nous achevions notre partie ?»
Kepler agrippa Barent par la manche de son veston, les yeux luisants de rage ou de terreur.
« Tuez-les !»
Il désigna Willy.
« Tuez-le ! Il est complètement fou ! Il veut détruire cette putain de planète parce qu'il ne supporte pas de savoir qu'il va bientôt mourir. Tuez-le avant qu'il ait le temps de... »
« Taisez-vous, Joseph. »
Barent fit un signe à Swanson. « Amenez-les ici et nous commencerons. »«
Un instant !» dit Willy.
Il ferma les yeux pendant 30 bonnes secondes.
« En voilà une autre !»
Willy ouvrit les yeux. Son sourire s'élargit encore.
« Une autre pièce vient d'arriver. Cette partie sera encore plus agréable que je ne l'avais escompté, Herr Barent. »
Le sergent SS au menton orné d'un emplâtre avait tiré sur Saul et l'avait jeté dans la fosse parmi des centaines d'autres juifs nus et morts. Mais Saul n'était pas mort. Il rampait dans de soudaines ténèbres sur le sable humide de la fosse et sur la chair lisse et glaciale de ces cadavres qui avaient été des hommes, des femmes, et des enfants venus de Lodz et d'une centaine d'autres villes et villages polonais. L'engourdissement qui avait gagné son épaule droite et sa cuisse gauche laissait la place à une douleur insoutenable. On lui avait tiré 2 balles dans le corps, on l'avait jeté dans la fosse, enfin, mais il était toujours vivant. Vivant. Et furieux. La rage qui lui parcourait les veines était plus forte que la douleur. Plus forte que la fatigue, la terreur et la résignation. Saul rampait sur les corps nus et le sol humide de la fosse, et sa colère alimentait sa volonté de rester en vie. Il s'avança dans le noir. Il était vaguement conscient de vivre une expérience hallucinatoire, et le psychiatre qu'il était en était fasciné. Se demandait si ses blessures récentes en étaient la cause, s'émerveillait du réalisme de ces 2 moments qui se confondaient. À 40 années d'intervalle. Mais pour une autre partie de son esprit, cette expérience était la réalité même, une résolution du principal conflit de son existence, une honte et une obsession qui l'avaient privé de vie pendant 40 ans, une fixation qui l'avait empêché de goûter aux joies du mariage et de la famille, d'entretenir des espoirs pour l'avenir, obnubilé qu'il était par son échec. Il avait échoué à mourir. Il avait échoué à rejoindre les autres dans la fosse. Et voilà qu'il y avait réussi. Les 4 hommes qui avaient débarqué sur la plage échangèrent des cris et se déployèrent sur 30 mètres. Leurs armes arrosèrent la jungle. Saul se concentra sur sa tâche, rampant dans des ténèbres presque absolues, tâtant le terrain de ses mains, sentant le sable et les oyas, laissait la place à une eau saumâtre où flottait du bois mort. Il plongea le visage dans l'eau et le releva dans un hoquet, secouant la tête pour en chasser gouttes et brindilles. Il avait perdu ses lunettes, mais elles ne lui manquaient guère dans une telle obscurité. Qu'il soit à 10 mètres ou à 10 kilomètres de l'arbre qu'il cherchait, cela n'avait aucune importance. La lueur des étoiles était incapable de franchir l'obstacle du feuillage, et seuls les vagues contours de ses doigts, quelques centimètres devant ses yeux, lui prouvaient que la balle qui s'était logée dans son épaule droite ne l'avait pas rendu aveugle. Saul se demandait quelle était la gravité de sa blessure, où s'était logée la balle. Un rapide examen ne lui avait pas permis de trouver un point de sortie, et combien de temps il survivrait sans intervention médicale. Ces questions lui parurent bien théoriques, lorsqu'une nouvelle salve déchiqueta les feuilles 60 centimètres au-dessus de sa tête. Des morceaux de branches tombèrent dans l'eau stagnante avec un bruit mou. Moins de 10 mètres derrière lui, un homme cria
« Par ici ! Il est parti par là ! Kelty, Suggs, suivez-moi ! Overholt, reste sur la plage et surveille-la au cas où il reviendrait !»
Saul se remit à ramper, puis se redressa lorsque l'eau arriva au niveau de sa taille. De puissants rayons lumineux éclairèrent la jungle derrière lui de leurs faisceaux jaunes. Il avança en titubant sur 4 ou 5 mètres, puis trébucha sur une souche invisible, s'éraflant les cuisses dans sa chute et avalant une gorgée d'eau saumâtre. Alors qu'il se mettait à genoux et émergeait à l'air libre, un pinceau lumineux lui balaya les yeux.
« Le voilà !»
Le rayon de la torche s'écarta l'espace d'une seconde, et Saul se plaqua contre la souche pourrissante alors que les premières balles fendaient l'air. L'une d'elles traversa le bois friable à moins de 20 centimètres de sa joue et fila au-dessus de l'eau avec un bourdonnement d'insectes en furie. Saul eut un mouvement de recul instinctif, et au même instant, un des trois rayons lumineux qui fouillaient les alentours se posa sur le tronc d'un arbre frappé par la foudre et ouvert en son milieu.
« Sur la gauche !»
cria quelqu'un. Le vacarme des armes automatiques était infernal. La voûte des arbres donnait l'impression que les trois hommes tiraient à l'intérieur d'un endroit clos. Profitant de la pénombre momentanée, Saul se redressa et se dirigea vers l'arbre distant de 6 mètres. Un rayon lumineux se pointa dans sa direction, le captura, le laissa échapper lorsque l'homme qui tenait la torche leva son arme. Saul remarqua distraitement que les balles sifflaient à ses oreilles comme des abeilles enragées. Il fut aspergé d'eau saumâtre lorsqu'un des hommes arrosa le marécage sur toute sa largeur, logeant quelques projectiles dans l'arbre. Les torches le localisèrent alors qu'il atteignait l'arbre et plongeait une main dans le tronc. Le sac qu'il y avait dissimulé avait disparu. Saul plongea au moment précis où les balles labouraient le tronc, là où sa tête et ses épaules s'étaient trouvées un instant plus tôt. Les balles qui s'enfonçaient dans l'eau émirent un bruit étrange lorsqu'il se mit à ramper sur le fond, agrippant racines et plantes aquatiques pour ne pas remonter à la surface. Il émergea derrière l'arbre en hoquetant, priant pour trouver un bâton, une pierre, n'importe quoi de solide qu'il puisse brandir dans leur direction lorsqu'il gaspillerait ses ultimes secondes de vie à les affronter. Sa colère était désormais un sentiment transcendant qui lui faisait totalement oublier ses souffrances. Il l'imagina, jaillissant de son crâne, telles les cornes de lumière dont la légende voulait que Moïse ait été coiffé lorsqu'il était descendu du Sinaï, telles les étroits raies de lumière qui traversaient l'arbre creux criblé de balles. Ce fut un de ces rayons lumineux qui lui permit d'apercevoir quelque chose qui brillait dans le tronc, juste en dessous du niveau de l'eau.
« Par ici !»
hurla l'homme qui avait crié quelques instants plus tôt, et les coups de feu s'interrompirent tandis que deux de ses poursuivants s'avançaient dans le marécage, se déployant sur leur droite en quête d'un bon angle de tir. Le troisième homme se dirigea vers la gauche, braquant sa torche devant lui. Saul serra le poing et frappa l'écorce là où elle semblait la plus fragile, une fois, deux fois. Sa main traversa le bois à la troisième tentative et ses doigts se refermèrent sur le plastique. Le sac était tombé au fond.
« Tu le vois ?»
cria un homme sur sa gauche. La mousse d'Espagne qui pendait aux branches basses barrait en partie la route aux rayons de leurs torches.
« Rapprochez-vous, merde !»
dit l'homme placé à sa droite. Il était presque invisible derrière le tronc. Saul agrippa le plastique glissant et essaya de faire passer le sac par la brèche qu'il avait ouverte dans l'écorce. Il était trop large. Saul le lâcha et attaqua l'écorce des deux mains, élargissant la brèche à coups d'ongles. Le bois pourri et calciné s'effrita en longs lambeaux, mais le tronc était par endroits dur comme l'acier.
« Je le vois !»
hurla un homme sur sa gauche, et Saul dut plonger pour éviter une nouvelle rafale, les mains griffant toujours le bois au milieu des geysers. Le vacarme s'interrompit au bout de 2 ou 3 secondes, et Saul émergea en hoquetant, secouant la tête pour chasser l'eau de ses yeux.
« Barry, espèce de connard !»
cria un homme à moins de 8 mètres de lui.
« Je suis dans ta ligne de tir, idiot !»
Saul plongea une main à l'intérieur du tronc et ne trouva que de l'eau. Le sac était tombé encore plus bas. Il s'avança et engouffra son bras gauche dans la brèche. Ses doigts se refermèrent sur une poignée au-dessus d'une lourde masse.
« Je le vois !»
cria l'homme sur sa droite. Saul recula, percevant la présence des deux hommes derrière lui, à une soudaine tension dans son omoplate douloureuse, et tira de toutes ses forces. Le sac se coinça dans la brèche, encore trop gros pour passer au travers. L'homme qui se trouvait sur sa droite cala sa torche et tira. Un nouveau trou dans le bois laissa passer la lumière, quelques centimètres au-dessus de la tête de Saul. Il s'accroupit, changea de main, tira une nouvelle fois. Le sac resta coincé. Une deuxième balle passa entre son bras droit et son flanc, suivie par un sillage de feu. Saul se rendit compte que si les deux autres ne tiraient pas, c'était uniquement parce que leur équipier était droit devant eux, s'approchait pour lui donner le coup de grâce sans cesser de l'épingler du rayon de sa torche. Saul saisit le plastique des deux mains, se recroquevilla et se jeta en arrière de toutes ses forces. Il s'attendait à ce que la poignée lâche, ce qu'elle fit, mais pas avant que le sac ne jaillisse du tronc dans une explosion d'écorce saturée d'humidité. Saul serra le sac mouillé contre lui, faillit le lâcher, le récupéra, et fit demi-tour en courant. L'homme tira une troisième balle, puis passa en tir automatique au moment où Saul sortait du champ de sa torche. Un autre rayon lumineux le trouva, mais disparut soudain lorsque l'homme qui tenait la torche se mit à hurler et à jurer. Un deuxième fusil entra en action, après s'être déplacé de 5 ou 6 mètres. Saul courut en regrettant d'avoir perdu ses lunettes. L'eau lui arrivait à peine aux genoux lorsqu'il trébucha sur un tronc et roula sur un îlot couvert de fourrés et de débris divers. Il entendit au moins 2 hommes se diriger vers lui lorsqu'il retourna le sac, trouva la fermeture à glissière, l'ouvrit et sortit le sac étanche qu'il contenait.
« Il a trouvé quelque chose !»
cria un homme.
« Dépêche-toi !»
Ils s'engagèrent dans la zone peu profonde que Saul venait de traverser. Saul attrapa la bandoulière chargée de C4, la posa sur l'herbe, puis attrapa le M16 qui avait appartenu à Haines. Il n'était pas chargé. Veillant à ne pas faire tomber le sac dans l'eau, Saul chercha un des 6 chargeurs, le palpa pour le mettre dans le bon sens et l'inséra dans le magasin. Durant son récent séjour à Charleston, il avait passé des dizaines d'heures à démonter, remonter, charger et utiliser le fusil mitrailleur, sans jamais se demander pourquoi Cohen lui avait affirmé quelques mois plus tôt que toute personne désirant se servir d'un fusil devait d'abord apprendre à l'assembler les yeux fermés. Les rayons lumineux balayèrent le tronc d'arbre derrière lequel Saul s'était tapi, et à en juger par les bruits d'éclaboussures qui lui parvenaient, le plus proche des 2 hommes n'était qu'à 3 mètres de lui, et se rapprochait rapidement. Saul roula sur lui-même, régla son arme en position de tir semi-automatique avec l'aisance que confère un long entraînement, cala la crosse de plastique contre son bras, et logea une rafale de balles dans le torse et le ventre du premier homme à une distance de moins de 2 mètres. L'homme battit des jambes et sembla s'élever dans les airs alors que sa torche tombait dans l'eau. Son équipier se figea à 6 mètres de Saul et poussa un cri inintelligible. Les balles tirées par Saul remontèrent le rayon de sa torche. On entendit un fragment de verre et de métal, puis un cri, et les ténèbres descendirent sur la scène. Saul battit des paupières, aperçut une lueur verte à quelques mètres de lui, et comprit que la torche du premier homme brillait toujours sous les 50 centimètres d'eau croupie.
« Barry !»
La voix provenait de l'endroit où les 3 hommes avaient essayé de le cerner, à 12 mètres de là.
« Kip, qu'est-ce qui se passe? Je suis blessé! Arrêtez de déconner !»
Saul attrapa un autre chargeur dans le sac, rangea la ceinture de C4 et se dirigea vivement vers le 3e homme en s'efforçant de rester dans l'ombre.
« Barry !»
répéta celui-ci distant à présent de 6 mètres.
« Je fous le camp, je suis blessé! Tu m'as logé une balle dans la jambe, espèce de connard !»
Saul continua sa progression, n'avançant que lorsque l'homme faisait du bruit.
« Hé, qui va là ?»
cria le garde dans les ténèbres. Saul entendit distinctement le clic d'un cran de sûreté. Il se plaqua contre un arbre et dit
« C'est moi, Overholt, éclaire-moi » « Merde !»
dit le garde, et il alluma sa torche. Saul jeta un coup d'œil derrière son arbre et vit un homme vêtu d'un uniforme gris à la jambe ensanglantée. Il tenait une mitraillette Uzi et s'escrimait sur une torche. Saul le tua d'une balle dans la tête. Son treillis était une combinaison une pièce qui s'ouvrait par une fermeture à glissière sur le devant. Saul éteignit la torche, ôta l'uniforme du cadavre et l'enfila dans le noir. On entendait des cris sur la plage. La combinaison était trop grande, les bottes trop petites même sans chaussettes, mais jamais Saul n'avait été aussi heureux de se vêtir. Il plongea une main dans l'eau pour chercher la casquette que portait l'homme, la trouva et s'en coiffa. le M16 et l'Uzi à la main, 3 chargeurs de rechange dans une poche et une lampe torche passée à sa ceinture, Saul rebroussa chemin jusqu'à l'endroit où il avait laissé son sac. Le C4, les chargeurs du M16 et l'automatique Colt étaient secs et prêts à fonctionner. Il fourra l'Uzi dans le sac, le referma, le passa sur son épaule et sortit du marécage. Un second hors-bord avait accosté à 20 mètres du premier, et le quatrième homme avait rejoint les 5 nouveaux venus. Il pivota lorsque Saul émergea de la forêt près de la crique et traversa la plage.
« C'est toi, Kip !»
cria l'homme pour couvrir le bruit des rouleaux et du vent. Saul secoua la tête.
« C'est moi, Barry !»
dit-il en portant une main à sa bouche.
« Qu'est-ce que c'était que cette fusillade? Vous l'avez eue ?»« Vers l'est !»
cria Saul, et il indiqua la plage derrière les 6 hommes. 3 gardes levèrent leurs armes et se mirent à courir dans cette direction. L'homme qui l'avait ailé attrapa un talkie-walkie et transmit un message d'un air excité. 2 des hors-bords qui patrouillaient derrière les vagues obliquèrent vers l'est et ils commencèrent à balayer la lisière de la jungle avec leurs projecteurs. Saul se dirigea vers le premier bateau, attrapa la petite ancre posée sur le sable, la jeta sur la banquette arrière et grimpa, posant le sac sur le siège du passager. Le sang qui coulait dans son dos avait taché la longue lanière. Le hors-bord était pourvu de 2 moteurs et d'un allumage électronique nécessitant l'emploi d'une clé. La clé était sur le tableau de bord. Saul démarra, s'éloigna de la plage dans un jaillissement d'écume et de sable, traversa les brisants et se dirigea vers le large. 200 mètres plus loin, il obliqua vers l'est et passa à la vitesse supérieure. La proue du bateau s'éleva. Il franchit la pointe nord-est de l'île et fonça vers le sud, à 45 nœuds. Saul sentait ses os vibrer chaque fois qu'une vague venait battre la coque. La radio émit un grésillement, il l'éteignit. Un hors-bord se dirigeant vers le nord lui lança un signal lumineux, il l'ignora. Saul abaissa le M16 pour le protéger de l'écume. Les gouttes d'eau qui perlaient sur ses joues mal rasées le rafraîchissaient comme une bonne douche. Il savait qu'il avait perdu du sang, qu'il continuait d'en perdre. Sa jambe saignait toujours et son dos était poisseux, mais même dans l'état de dépression provisoire qui était le sien après la bataille, la détermination brûlait en lui comme une flamme vive. Il se sentait fort. Il se sentait furieux. 1,5 km devant lui, une lueur verte clignotait au bout du long quai qui conduisait à Live Oak Lane, au manoir, et à l'Oberst Wilhelm von Borchert.